Allez, 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 allez. On y va.
Ne me brusquez pas, hein, vous ne me brusquez pas. Alors, on y va. Sel, sel. Dépêchons-nous, parce qu'après, ça sera trop tard. Ça se meurt, là. Non, pas là, pas là. C'est curieux, quand même.
J'accepte les régimes, mais pas les manies.
Qu'est-ce que vous en pensez, monsieur Corneille?
J'adore les sujets.
Les gens ne savent pas ce qui est bon. Les gens ont un trou dans le ventre et ils remplissent ce trou de merde.
Il n'y a rien à faire, c'est comme ça.
Et la cuisine, hein, c'est le salaire qui ne demande pas. On peut se gourer sur la peinture, sur la musique, mais sur la bouffe, pas d'histoire. C'est bon ou c'est mauvais.
Oh, du dessert, c'est une bûche?
Non, c'est clou.
Bonsoir à tous et toutes, de bouche à oreille, en direct sur Studio ZEF. Une émission dédiée à la popote, la boostify, la mangeaille, la ripaille, bref, tout ce qui fait vibrer n'importe quel humain qui se respecte, et particulièrement le français, j'ai nommé la gastronomie. Et ça y est, nous voilà déjà en 2009. Que vous souhaitez, chers auditeurs fidèles de bouches à oreilles? Mais des bonnes choses bien sûr, des produits frais, mitonnés maison, des découvertes culinaires d'ici et d'ailleurs, des pépites gastronomiques que vous n'hésiterez pas à nous faire partager bien sûr, et des vins de caractère originaux et atypiques. Bref, on vous souhaite tout sauf la standardisation dans votre assiette. Ah oui, et avant d'oublier, pas d'abus de galette non plus, vous risquez de vous étouffer. Fidèle au poste pour m'accompagner durant ces 60 minutes dédiées à la popote, mes chers camarades attablés, Yann, qui a quitté sa brasserie à Pouillé pour venir pousser son coup de gueule dans le poste sur les galettes, il me semble. Salut Yann.
Salut.
Marie, qui nous parlera vin nature au cinéma d'ici quelques minutes avec Maëlys Pourakia. Salut Marie.
Bonsoir Alice.
Véro, cinéphile et gastronome, l'alliance idéale du jour, qui nous racontera les souvenirs culinaires de Cécile Argondico en fin d'émission. Salut Véro.
Bonjour Alice.
Enfin Jérémy, à la technique et à la programmation musicale. Alors pour notre premier numéro de l'an 2019, nous sommes bien contents d'avoir à nos côtés Romain Pribilski, directeur et programmateur du cinéma Les Lobbies Sablois. Bonjour Romain.
Bonjour. Merci, c'est un honneur du coup de
n'est-ce pas
l'année.
Ouais. et pour nous donc, parce qu'on va parler cinéma et gastronomie aujourd'hui, messieurs, dames, de l'orgie occidentale caricaturée dans La Grande Bouffe par Marco Ferreri en 73, à la délicatesse asiatique des délices de Tokyo, de la saveur des ramen ou de l'odeur de la papaye verte. En passant par l'aliment comme accès au plaisir du festin de Babette, on va faire un petit tour totalement subjectif de ces films qui mettent en scène la cuisine, la popote, la gastronomie, histoire de vous mettre non seulement en appétit, mais en quête de ces pépites cinématographiques à découvrir ou redécouvrir. Mais avant de démarrer notre discussion, chers camarades attablés, qu'avez-vous apporté comme bon plan dans votre panier ? Yann.
Bon plan, coup de cœur, j'en avais pas jusqu'à récemment, j'ai réécouté des épisodes de À Voix Nue sur France Culture, à choper en podcast sur leur site internet, une semaine passée, alors c'est ça date de l'an dernier il me semble, je l'ai écouté deux fois, c'est Michel Brass, le chef de l'Aveyron, qui nous raconte ses souvenirs d'enfance sur cinq épisodes, et puis la transmission de l'amour de la cuisine avec son frère. Et c'est l'inventeur du coulant au chocolat que tout le monde connaît. Tout le monde ne savait pas que c'est...
C'est Michel Brass qui a inventé le coulant au chocolat.
Ouais,
d'accord.
Tout à fait. Donc voilà, des bons souvenirs à écouter en 5 épisodes d'une demi-heure en podcast franceculture.fr.
Ça va nous faire de la concurrence alors. Ça c'est ballot.
Je ne pense pas qu'ils aient peur de nous. Mais
ah, bon, va savoir.
Ils nous ont quand même piqué l'émission à moitié. Hein, avec,
là, t'es furax depuis quelques
mois. Je suis furax, je l'ai là encore.
On ne l'a pas déposé à temps.
On va l'aller voir.
Marie, ton bon plan?
Alors, mon coup de cœur pour ce mois-ci, c'est la 20e édition de la Dive Bouteille, qui est un salon bien connu dans le milieu du vin nature, un salon international, souvent nommé comme le plus grand salon de vin nature pour sa renommée et le nombre de vignerons qui y présentent leur vin. Il y en a environ 150, entre 150 et 200, venant de toutes parts dans le monde entier, enfin du monde entier, France, Italie, Espagne, Allemagne, Géorgie, Australie, Argentine, Afrique du Sud, États-Unis, etc. Et donc la Dive Bouteille aura lieu à Saumur des 3 au 4 février prochain. Toutes les infos sont sur Internet. Et par contre, il faut faire attention parce que les vins n'y sont pas à vendre, mais à déguster. Et donc, on dit souvent que c'est plus un vin pour les professionnels que pour les particuliers.
Un salon pour les professionnels.
Oui, j'ai dit un vin.
Ouais, mais voilà. Mais on peut quand même y aller si.
On peut y aller. L'entrée est payante avec un verre à l'entrée et on déguste. Voilà.
D'accord. La Div Bouteille
3-4 février
oui, prochain
à Saumur.
À Saumur.
Voilà.
Ok, Véro, ton bon plan ?
Oui, je me suis souvenue que cet été, j'étais passée aux Petits Instants. Alors, c'est dans le Loiret, donc à Main-sur-Loire, plus exactement. Donc, les Petits Instants, bah, en fait, c'est un petit salon de thé où on peut déguster du bon vin, vin nature. Il y a une petite terrasse au fond, c'est pas cher. Il y a des petites collations très sympas, tout fait maison, avec des bons produits. Voilà, donc si vous faites la Loire à vélo cet été, par exemple, c'est une halte très sympa en face de la halle de Main-sur-Loire. Voilà.
Donc, mais c'est pas très loin d'une certaine guinguette en plus, ça tombe bien, on peut enchaîner.
Ah mais oui, après vous avez Bôle.
Bon, enfin, Bôle, voilà, pardon, je cherchais. Ok, les Petits Instants
Ça s'appelle les Petits Instants les petits à Main-sur-Loire.
Donc okay. On peut rester qu'un tout petit moment là-bas, c'est ça?
Non. Ouais, parce qu'après t'es viré. Enfin, surtout toi.
Bah moi, mon coup de cœur, c'est beaucoup plus classique. C'est un livre de recettes indiennes qu'on m'a offert pour Noël. Ça s'appelle Inde. Et c'est publié dans la collection Fait Maison, d'ailleurs, chez Hachette Pratique. Alors, maintenant qu'il n'est plus un secret pour personne que j'ai chassé les produits carnés et piscicoles de mon alimentation, eh bien, je peux vous dire que je me suis régalée dès les premières pages tournées. Recettes de légumes, pain, galettes, curry, chutney, dalle. Bref, d'emblée, je me suis dit que la cuisine indienne, c'est exactement ce qu'il me faut. Il y a même des recettes sucrées. Ce qui est assez rare dans les livres de recettes étrangères, car il me semble, Yann, à moins que tu me contredises, que le dessert, c'est quand même assez français. J'avais l'impression que c'était très, 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 très français, ce
très
côté sucré, très
cas,
européen.
C'est pas japonais, en tout cas, c'est
voilà,
ce qu'on
c'est
peut
ça.
Dire.
Ouais. Ouais.
Mais indien, il y a des bons desserts indiens.
Eh ben, c'est ce que j'ai découvert.
Ouais, oui.
Voilà. Et surtout, les recettes sont courtes et ont l'air très faciles à réaliser. Donc là, pour ça, le Père Noël a été très, très inspiré sur ce coup-là. Donc, c'est Inde, collection fait maison, d'ailleurs, chez Hachette Pratique. Et je ne peux pas vous donner le tarif parce que c'est un cadeau. Alors, c'est pas écrit. Mais ça m'étonnerait que vous explosiez votre budget.
Par contre, tu peux nous inviter à manger.
Oui, oui, oui.
Voilà, c'est ça. Ouais.
Chers auditeurs.
Voilà, vous me laissez m'exercer un petit peu et puis on fait repas indien. On va s'écouter un petit peu de musique. On va partir avec la caution, thé à la menthe. Et puis on commence notre discussion après.
J'ai souvenir d'une madame Nicole, un stit qui pensait qu'un bounoule n'était pas fait pour l'école. Je portais un velours troué, des bottes rouges en plastique, une cagoule en laine, un chandail ou des plaies baskets. Le coiffeur ne savait même pas encore que j'existais. Mais sois sûr que le premier qui nous a vus s'est désisté. Pourtant jeune et innocent, la mort volée sans clinette. On squatte le bac à sable avec sa sable et nos idées afin de faire du vandalisme, même sans le savoir. Nos parents n'ont pas, donc on erre sans avoir. D'après nos voisins, de gros racistes, je le précise, nous étions mal élevés, leur berger allemand mieux dressé. Moi j'y crois pas, d'ailleurs j'y ai jamais cru, car parental est le seul amour que j'ai jamais eu. Donc pour pas se vénérer, s'y met à la menthe, les vertus du nerne, donc du thé à la menthe.
Bidonville, ambiance clandestine dans un bar à Barbès et à la menthe, couscous et tagine à la carte. Plus de scopitone pour Mouloud et Saïd Abdallah, avec un sale accent, pas de salam alek. Me dit Hazen l'athlète, originaire d'Algérie, d'Hollywood à Tamanrasset. Plus de thé à la menthe, juste des palabres amères comme un malade mental. J'ai mal à la tête, je cabale en Stan Smith, Adidas, jeans, 501, savagement tape. Ici c'est v'là l'attentat. Pour quelques douces de plus, y'a des carnages dans l'air. Cette France me désintègre. On classe arabe comme un barbare bancal. Nique la culture du barbecue, du steak et des fast-food au bled. C'est la djellaba et les sandales d'Oujda à Casablanca. C'est banal en bas de la tête, j'm'emmerde et j'pèse que dalle. Ça se bat la frambade, mon rôle, ma peine et ma joie se confondent. Et c'est tout ce qui reste de notre héritage culturel. De notre héritage culturel.
Nice, Nastase et 500, à peine tout. Cassette de fond, quel daron, 505, mais 20 le mot. Problème avec un grand P, face auquel tout le monde a tremblé ou rampé. Après l'innocence, le pessimisme s'est ancré. Devant l'incandescence, le droit chemin s'est cambré. Je lui ai tendu la main et le bonheur m'a crampé. Genre, seul l'argent et l'honneur peut me rendre vrai. Mais si on peut t'accuser de choses que si t'avais fait, tu te pendrais. Il leur faut un arabe, un noir, ce que tu veux, bref, du concret. On a eu la chance de ne jamais se prendre au sérieux. Côtoyer le vice sans jamais faire le saut périlleux. Modelant, notre vie loin du saut de l'ange. À l'école, nouveau tour contre l'albatros de Beauterre. On s'est retrouvé dans le rap contre toute réelle attente. La recette sans pleurs, stylo était à la menthe. À oreille.
L'émission qui fait manger des épinards.
Et c'était donc la caution thé à la menthe dont Romain vient nous apprendre que c'est tiré de Ocean's 11, c'est bien
ou
ça.
Ou 12.
Ou 12, on ne sait pas trop, peut-être 13, enfin c'est celui que vous voulez, quoi, bref, mais ça se passe au casino. Romain.
Là, c'est déjà le petit chien savant qui fait « Ah, ça s'est tiré d'un film, vous ne saviez pas ?»
Ouais, voilà.
Ah, je déteste. C'est,
ben ouais, ben ouais mais t'es là pour ça. T'es là pour être notre caution cinématographique. Ouais. Quand on te parle cuisine et cinéma, tu penses à quoi ?
Alors, il y a plein de trucs, parce que je pense que si jamais on mangeait dans la vie à proportion que les gens mangent, je parle après le micro, par exemple, je sais pas, dans un film d'une heure et demie, on va dire, qu'il y a 10 minutes de bouffe, un quart d'heure de bouffe, alors c'est, ça peut être des scènes de règlement de compte, des scènes de drague, des scènes de retrouvailles en famille, ou je sais pas quoi, et admettons, une heure et demie, un quart d'heure, ça fait comme si on mangeait un sixième de notre temps. Là, je trouve ça, c'est un truc assez...
Avec ce qui se passe, avec le temps que la...
Voilà, si on compare le temps de cinéma à la vie, je pense que déjà, on serait tous obèses.
C'est vrai qu'il y a énormément...
Voilà, ça, c'est une première réflexion comme ça. Et la deuxième, alors ça, du coup, c'est moi qui vais... Parce que je suis venu aussi parce que ça m'intéresse.
Mais on espère bien.
Parce qu'on fait régulièrement des choses sur l'art au cinéma, au lobby, avec notamment une conférencière qui s'appelle Isabelle Vrina, et on doit faire des conférences 4 fois par an, et à chaque fois, elle me dit « Ah non, mais ça, c'est un film, mais c'est... On ne sent pas que ça parle de l'art, mais on ne sent pas que ça comprenne l'art. » Donc là, mais par exemple, ça parle d'un peintre, c'est machin, mais on sent, voilà, ça parle du truc, on apprend des trucs, mais on ne ressent pas le geste du peintre, on ne ressent pas la création. Et du coup, je me demandais si dans le cinéma, il y avait des films comme ça qui sont, comme on dit, d'un tableau qui est haptique, parce qu'on arrive à le sentir. Voilà. Est-ce qu'il y a des films comme ça qui donnent vraiment, que vous connaissez, qui vous...
Qui donne envie ou vraiment.
Et vous dites, ça c'est vraiment sur la bouffe. C'est pas un film qui parle de nourriture, c'est un film vraiment qui comprend la nourriture et on la ressent.
Ouais, tout à fait. Claude Sautet avec Garçon, par exemple, avec Yves Montand. Villeray dans les années 80, a fait un film qui est totalement en adéquation avec ce que moi j'ai vécu dans le restaurant. Alors on parle un peu moins de bouffe, on parle plus de la restauration. Et là, ils sont vraiment dans le cœur du sujet, on sait de quoi ils parlent. En tant que pro, il n'y a pas de souci. Et question bouffe, je rejoins exactement ce que tu dis. Il y a beaucoup de films dans lesquels on parle de la bouffe et puis en fait, on ne ressent pas du tout. On évoquait l'autre fois le film Chocolat.
Le chocolat, avec
Juliette Binoche.
Et Johnny Depp.
Ouais, voilà,
oui, d'accord, qui n'est qu'en photo sur l'affiche, mais qui est la caution.
On
ne
voit pas beaucoup, ouais. Mais bon, le chocolat, moi, ça ne m'a pas donné... C'est vraiment c'est le sujet principal du film. Oui. C'est mal foutu, je trouve. Mmh. On n'a pas envie c'est pas crédible du tout.
Et c'est un film qui parle d'autre chose, surtout. Enfin,
c'est surtout un film qui parle d'autre chose, alors que le sujet central, c'est vraiment ça, et la gourmandise. Bah, la gourmandise, le chocolat,
Oui, c'est une femme qui reprend, en fait, la boulangerie, ou je ne sais plus, la pâtisserie. Non, c'est pas une chocolaterie, à la base. Et puis qui réinvente, en fait... Mais ça, c'est un prétexte. En fait, c'est ça qui est intéressant, c'est que la cuisine, de toute façon, je pense qu'il... Enfin, je ne sais pas, hein. Mais je pense qu'on peut prendre les films du monde entier. Il y a au moins une scène à chaque fois où quelqu'un boit un café, où quelqu'un mange quelque chose. Enfin, c'est normal.
Ou une scène où ça se passe dans la cuisine.
On a quelque chose, on a un rapport avec ça qui est vraiment...
C'est un peu central quand même dans nos vies.
Bah, la nourriture. C'est surtout que ce n'est pas forcément une préoccupation, c'est-à-dire que ça peut être le sujet du film, mais ça peut être aussi un prétexte à dire quelque chose, quoi. Donc, c'est vrai qu'il y a, par exemple, dans le chocolat, c'est une histoire d'amour, quoi. C'est l'histoire, voilà, le chocolat, alors c'est censé être sensuel. Il y a toute la texture du chocolat qui fait appel à des sentiments comme ça, quoi. Mais... je pense qu'on retrouve tout ça dans les films. Enfin, moi, c'est ce que ça m'évoque.
Ouais. Et puis aussi, dès qu'on pense à nourriture et cinéma, tout de suite, enfin, moi, personnellement, je pense à la grande bouffe. Ouais. C'est comme si à chaque fois qu'on parlait d'un film sur les enfants, on pensait à Halloween ou à des trucs comme ça. Enfin, c'est vraiment un film qui ne donne pas envie. Il y a un film aussi qui était passé à la Fondation du Doute il y a 2 ans, le film de Greenaway. Un film à rallonge.
Le cuisinier, le voleur, sa femme et son amant.
Ouais. Là, pour le coup, ils font vraiment aussi que bouffer tout le temps. Ouais. Et pour autant, on n'a pas du tout envie de manger.
Non.
Pas vraiment.
Non, c'est vrai.
Mais je trouve que du coup, ces deux conceptions... je ne vais pas partir dans une analyse théorique, mais je trouve que quand tu parlais, qu'est-ce qui, comme film, donne envie ou on y croit? Moi, le cinéma asiatique, j'y crois toujours. Je ne sais pas, j'ai l'impression qu'on sent vraiment, quand ils sont à faire à manger, on sent de la délicatesse, on sent du respect du produit. Alors, j'ai pas forcément d'exemple de film en tête. Yann,
parce qu'à mon avis, il capte vraiment la relation, la corrélation qu'il y a entre le plaisir de manger et le désir et quelque part le plaisir sexuel. Et c'est ça qui fait la vérité de ces films-là, à mon avis. Tampopo, par exemple, le film japonais, il y a beaucoup d'évocations sexuelles dans le film. Il y a des rapports amoureux. C'est vraiment en relation avec ça. Donc, quand on mange, c'est la notion de plaisir. Si elle n'est pas présente, c'est un petit peu dommage de se nourrir. Dans la sexualité, c'est la même chose. Il y a la fonction de se reproduire. Il y a aussi une notion de plaisir.
Et manger, tu penses que ça, c'est propre au cinéma asiatique?
Moi, je l'ai vu plus dans les films asiatiques que dans les films européens, oui, tout à fait. À moins que vous ayez un autre exemple. Mais après, on parlait de la grande bouffe, c'est plutôt dans le titre. Il y a du désir dedans, mais on n'a pas vraiment envie de...
C'est de l'orgie.
C'est de l'orgie, voilà.
Si on s'écoutait un petit extrait de la grande bouffe, d'ailleurs.
Oh, j'ai mal. Oh, j'ai mal. Non, c'est pas mes soeurs, Marcella. Fais doucement.
Laisse-toi aller, mais...
Marcel, ne sois pas méchant.
Ne sois pas honte, Pio.
Oh, c'est horrible. Ah, tu sais, quand j'étais petit, ma mère, elle me donnait toujours des punitions terribles. Et là, c'est la première fois. Ah, c'est la première fois depuis que je suis adulte, tu comprends.
Ne la prends pas au tragique, ouvre les jambes. Pousse.
Oh non.
Ça te soulage. Ça décongestionne. Pousse. Aide.
Et voilà, pardon, vous êtes à l'heure du dîner, c'est pas très délicat.
Bon appétit.
C'était donc Michel Piccoli. Alors, pour rappel, tu peux nous rappeler un peu, Romain, de quoi il est question dans La Grande Bouffe, donc film de 1973.
Oula, ce quiz. Marco Ferreri, film qui fait scandale. Et c'est des bourgeois qui s'enferment dans une maison très très grande et qui font que manger. Et en fait, ça s'apparente à un suicide.
Qui viennent pour mourir. C'est un suicide par l'alimentation.
Après, moi, personnellement, c'est pas un film qui m'a marqué. Je l'ai vu parce que voilà, c'est partie des films où... Mais c'est pas un film qui m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup marqué.
Ah oui.
Par exemple, en parlant de paix et de flatulence, je préfère en parler de film asiatique, Les paix du petit garçon dans Bonjour de Ozu, si vous ne l'avez pas vu. Il fait des paix tout mignons, alors qu'il doit manger 2 graineries par jour. Et c'est trop mignon.
Oui, mais voilà. Justement, c'est mignon, c'est le côté délicat de l'Asie.
C'est ça. C'est la question que je vais te poser. Est-ce que c'est un exotisme où, en tant qu'occidental, on se dit, ah oui, quand même, la bouffe asiatique, on imagine que c'est quelque chose de très ritualisé, de très salé certainement. Enfin, c'est vrai qu'il y a un côté comme ça où il y a un film qui est sorti il y a 2 ans qui a vraiment beaucoup marché, qui s'appelle Les délices de Tokyo. Mmh. Où les questions de dorayaki, les questions de transmission, les questions de voilà.
Tu peux nous rappeler, juste pour ceux qui ne l'ont pas vu, Les délices de Tokyo, de quoi... Alors, c'est un film de Naomi Kawase, c'est ça?
Voilà, c'est son seul bon film.
Très bien.
Non, en fait, c'est l'histoire de quelqu'un qui tient un stand de dorayaki, un mec qui doit avoir la quarantaine, et donc j'ai oublié le nom de l'acteur, mais il est dans tous les films de Kawase quasiment. Et il a un petit stand de bouffe qui marchotte, et puis il cherche une serveuse cuisinière, et puis c'est une vieille dame qui arrive et qui dit « Ah, machin », donc lui, il veut pas, parce qu'il s'imagine une petite serveuse de ça. Et en fait, il s'avère que c'est une très, très bonne cuisinière. Et du coup, son commerce va cartonner. Voilà, donc ça va bien marcher. Et puis il va se nouer aussi une relation un peu... je ne sais plus si lui, il est orphelin, ou je ne sais pas quoi, il y a une histoire où il se rapproche, et puis ça devient... Voilà.
Et justement, on la voit cuisiner, justement, cette femme, dans les délices de Tokyo.
Dans mes souvenirs, tout le long.
Oui, tout le long, tout le temps.
On a un petit extrait des délices de Tokyo. Allez, c'est parti pour la BO. Merci Jérémy. Alors du coup Romain, tu disais tu comprends pas parce que tu parles pas le japonais couramment, mais par contre ça t'évoque directement le non, film, c'est ça?
Ouais, non, mais je vois exactement la scène dont il est question. Je sais pas si c'est un extrait de la bande-annonce, et que la bande-annonce j'ai dû la voir peut-être 20 fois, et, d'accord, c'est peut-être ça. Et ce qui est marrant, c'est que le film a tellement marché qu'il y a un film qui s'appelle La Saveur des Ramen,
oui, qui est sorti à l'automne.
Qui est sorti à l'automne, qui a eu un succès un peu moindre, mais quand même un bon succès pour un film de ce genre-là. Et toute la communication du film était faite pour que ça rappelle les délices de Tokyo, à tel point que la phrase qu'ils mettent toujours, les trucs genre une comédie, machin, un truc, les trucs entre guillemets, là ils avaient mis ce film est un délice.
Je pense que c'est pour ça que j'ai confondu les deux. Moi, l'autre jour, en effet, je voulais vous parler d'un film, je voulais vous parler de La Saveur des Ramen, je confondais avec les délices de Tokyo. Et alors, honte sur moi, je n'ai pas vu les délices de Tokyo. Véro, toi, qu'est-ce qui t'évoque ce film?
C'est-à-dire que, pour rebondir un petit peu sur ce que disait Yann aussi, je pense qu'il y a vraiment le côté culturel, c'est-à-dire que ce sont des gens, ce sont des pays où, comme d'ailleurs dans certains pays du Maghreb ou du Moyen-Orient, etc., en fait, on peut manger jour et nuit. C'est-à-dire qu'il y a un truc où...
Il n'y a pas les heures des repas très
non,
fixées.
Non, pas du tout. Et puis, c'est dans la famille, c'est aussi à l'extérieur, c'est les amis, c'est... voilà, c'est ce qu'on appelle classiquement, voilà, c'est aussi le lien social, quoi. Voilà. Donc ça me paraît vraiment important. Moi, les délices de Tokyo, j'ai adoré parce que les personnages m'ont bouleversée. Je trouve que il y a une histoire, ouais, il y a une histoire qui est forte. Il y a un passé qui est dit, mais pas tout à fait. Enfin, voilà.
Est-ce que justement la nourriture évoque le passé, le savoir-faire, est-ce qu'il y a une transmission via la nourriture ou...
Moi, là, j'ai pas eu cette sensation-là. Hein. J'ai pas vu ça, en tout cas, moi. Non, 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 c'est vraiment...
On va parler vin, un petit peu.
Oui,
ouais,
avec
Marie, je crois que tu vas nous parler de Wine Calling avec Maëlys, qui est dans le studio. On est très, très nombreux ce soir.
Oui, c'est Maëlys, oui.
Voilà, et donc voilà, moi, je te laisse partir.
Moi, je fais vraiment du vin sans rien. Pressé avec les pieds. Tout propre, attention. Hein.
Les gens qui pensent que faire du vin naturel, c'est juste mettre du raisin dans une cuve et pas y toucher, mais ils sont fous. Faut travailler mille fois plus que sur un vin conventionnel.
C'est en mouvement perpétuel, tu vois, le vin naturel. Quand t'as que des certitudes, c'est une catastrophe.
Je mets au monde quelque chose et je l'accompagne pour bien l'élever.
Donc là, je suis en train d'accoucher, en fait, vous réalisez pas.
Les vins nature, ce sont des vins de fainéants. Ils sont bourrés de défauts, mais ils séduisent les néo-vignerons comme les néo-consommateurs qui s'habituent à ces faux goûts ou les prennent pour des expressions du terroir. Une régression.
Sur des vignes qui sont centenaires, et quand on te dit que ça représente pas ton terroir, tu te dis quand même un truc qui va pas.
Mais ce que j'ai trouvé ici, c'est le collectif.
Wouhou ! On partage les choses, quoi.
On tourne !
Ces gens-là font ce qu'il faut par choix, avec une envie de partager et de transmettre.
Ils salopent pas leur sol, ils salopent pas la santé des gens, ils expérimentent des trucs, ils prennent des risques.
On va pas changer le monde en allant au bureau de vote, on va changer le monde en allant dans les vignes.
Ouais, c'est quand même magique. On a des raisins et puis quelques mois après, on peut se prendre une cuite. C'est génial.
Donc c'était un extrait du film Wine Calling qui est sorti le 17 octobre, en octobre 2018, réalisé par Bruno Sauvard. Nous avons invité Maïlys Porakia, tu es cinéphile, diplômée d'un master à l'université Paris 8 en valorisation des patrimoines cinématographiques et tu as travaillé dans le cinéma. Tu travailles aussi de manière saisonnière dans les vignes, tu connais donc le cinéma, le vin et la vigne, c'est pourquoi nous avons souhaité t'inviter. Pourrais-tu tout d'abord nous parler de ce qu'évoque pour toi la thématique vin et cinéma ?
Oui, bonsoir à tous déjà, merci de m'avoir invité ce soir. Alors, quand je pense vin et cinéma, je pense à plusieurs choses. Je pense à deux choses, voire trois. Alors, la première chose, c'est les films de fiction dans lesquels le vin a une place importante, soit ça parle de vin et dans l'histoire propre du film, ou alors juste ils boivent du vin dans le film. Donc je peux penser aux Enchaînés de Alfred Hitchcock où il y a tout le suspense se passe dans une cave et du coup il y a beaucoup de scènes qui se passent dans cette cave et avec des bouteilles de vin, ou des films surtout français comme par exemple le dernier Ceux qui nous lient de Cédric Clapiche que je n'ai pas vu. Mais il y en a plusieurs sur cette thématique qui prennent les vignes et le vin comme vraiment décor du film, ouais. Et toutes les questions de transmission, de savoir, du terroir et d'une histoire familiale. Donc il y en a plein, des films comme ça. Voilà, c'est le dernier en date. Et donc voilà, ça c'est d'un côté les films de fiction. J'en ai donné juste deux exemples, mais il y en a plein d'autres. J'imagine qu'il y a beaucoup de films français où on boit du vin, de toute façon. Et d'un autre côté, après, c'est les films documentaires qui parlent du vin. Donc les documentaires sur le vin naturel notamment, dont on va sans doute plus parler ce soir, mais voilà, en général les films sur le vin. Et je pensais aussi à une troisième chose, peut-être le vin qu'on peut boire en regardant des films.
Ah oui.
Comme tu disais tout à l'heure aussi, Romain, la nourriture qu'on peut manger en regardant un film.
Oui.
Parce qu'au cinéma, on peut peut-être pas boire du vin, quoique dans certains pays ici, ou alors chez nous, quand on regarde un film.
Pour la deuxième projection, on a fait Wine Calling, on a fermer les yeux sur certaines personnes qui montaient avec leur verre rempli.
Bravo, enfin, rempli merci.
Ou à moitié. Mais...
Parce que c'est super agréable. Enfin, moi, j'ai vécu en Allemagne. En Allemagne, on a le droit de boire dans les salles de cinéma et c'est très agréable de pouvoir choisir ce qu'on boit.
Mais en France, je crois qu'on a le droit aussi. C'est juste que c'est...
Mais c'est pas proposé. Non, c'est interdit.
On n'a pas le droit.
Bah, mais... si jamais quelqu'un...
L'alcool est interdit, non.
Si par exemple, admettons, il y a des flics qui ont une salle de cinéma, déjà, faudrait que... Voilà. Il y a quelqu'un qui a amené sa bouteille de vin et je ne l'ai pas vu ramener sa bouteille de vin. Je ne ferme pas mon cinéma. Donc on a
mais c'est pas proposé par le cinéma. Quoi.
Non, ouais.
On n'a pas le droit de vendre de l'alcool pour rentrer dans la salle.
T'as pas de licence, parce qu'il faut avoir aussi une licence. Faut avoir...
Alors que c'est super agréable. Et du coup, chez soi, on peut décider de boire plutôt, je sais pas, un Cabernet Franc pour regarder ce film, parce que ça va mieux avec, j'en sais rien. Il y a peut-être un accord à faire 20 films. Voilà.
Et alors, c'est très, très intéressant, là, ces trois aspects, ces trois dimensions. Et donc, dans les films de référence, documentaires plus notamment, donc là, on vient d'entendre Wine Calling. Il y a Wine Calling, qu'est-ce que tu as à dire déjà sur Wine Calling éventuellement, et puis sur d'autres ?
Alors, j'ai beaucoup aimé, moi, Wine Calling. Enfin, je regarde un peu les films et ce qui sort sur le vin naturel. Je trouve ça intéressant qu'on en parle de plus en plus, que ce soit par des reportages télé ou des films de cinéma. Et donc quand Wine Calling est sorti, j'avais vraiment envie de le voir. Je suis allée le voir au Lobbies, merci Romain. Et je trouve qu'il montre exactement ce que c'est ce mouvement des vignerons naturels. Il montre tous les aspects de cette génération-là de vignerons.
Technique, humain.
Oui. En fait, c'est que je voulais commencer à parler d'un autre film, pardon. Mais
vas-y.
Donc, les films de référence, c'est que je pensais à Wine Calling de Bruno Sauvard, qui est sorti l'année dernière, mais aussi surtout à Résistance naturelle de Jonathan Nociter.
Oui.
Du coup, qui est sorti en 2014.
Qui est aussi le réalisateur de Mondovino.
Voilà, tout à fait. Alors, moi, je n'ai pas vu Mondovino, mais je le regarderai un jour. Donc, Jonathan Nociter, c'est un cinéaste, mais c'est aussi quelqu'un qui a travaillé dans le vin, et dans la gastronomie, qui a travaillé à New York et qui a fait des cartes de vin de certains endroits, certains établissements à New York. Du coup, il s'y connaît un peu dans les deux domaines. Et dans Résistance naturelle, il part en Italie. Il y a Stefano Bellotti, qui est un vigneron italien très connu dans le monde du vin naturel, qui est décédé récemment. Et il le met en discussion avec d'autres vignerons et avec Gianluca Farinelli, qui est le directeur de la Cinémathèque de Bologne. Et du coup, dans ce film-là, il met en plus en lien l'idée de conservation du patrimoine, que ce soit le patrimoine du vin et des terroirs, et la conservation du cinéma. Et vraiment, c'est pour ça que j'ai adoré ce film, parce que c'est une discussion et une réflexion encore plus avancée, plus poussée, sur ce que c'est de faire du vin quand on veut conserver des valeurs et des choses importantes comme ça du terroir. Dit très courtement.
Voilà. Oui, donc justement, pour toi, c'est ça. C'est, qu'est-ce qui, pour toi, leur intérêt, ces documentaires pour un grand public ou pour des personnes même plus, enfin, des vignerons, des personnes qui sont vraiment initiées. Voilà, quel est leur intérêt pour ces différents publics?
Permettre de comprendre mieux ce que c'est le vin naturel, du coup, que ce soit quelqu'un qui ne s'y connaît pas du tout. Enfin, je pense que quand on voit Wine Calling, on sort de la salle, on a envie de tous de boire un coup de vin naturel. Et c'est ce qui se passe d'ailleurs dans toutes les projections qu'il y a eu voilà, de ce film. Et puis même pour des spectateurs avisés, ça permet d'en apprendre plus, de rencontrer d'autres vignerons. Enfin, c'est vraiment des histoires de rencontres. Moi, je trouve ces films-là, c'est surtout fait pour ça. C'est la rencontre, et aussi dans le film même, c'est la rencontre entre Jonathan Nociter et les vignerons. Pour Wine Calling, c'est la rencontre de Bruno Sauvard et des vignerons. Et après, avec le public aussi. Et le vin est fait pour ça, le V1 est fait pour qu'on se rencontre et qu'on partage des moments ensemble. Du coup, c'est juste une chaîne qui continue entre le cinéma, le vin et les gens.
Et de partager des émotions.
Voilà. Et aussi, juste pour les vignerons, ça peut être aussi intéressant. Enfin, j'ai une citation des vignerons de Wine Calling qui ont dit après la première projection « Merci Bruno, du coup le réalisateur, c'est quelque chose qu'on pourra montrer à nos enfants. » Et c'est intéressant de garder peut-être des traces de ce qu'on fait.
Donc vous, pour Maïlys et Romain, s'il y a un film lié sur le vin à recommander à tous, à nos auditeurs, ce serait...
Ouais, Wine Calling pour l'ambiance. Après, ça dépend ce qu'on cherche. J'avais envie de citer aussi juste des reportages télé qui ont été faits pour France 3 Région Centre. C'est un réalisateur de télé, Philippe Gagné, qui a réalisé 52 minutes de télé. Et je le trouve assez bien fait. Je ne suis pas du tout fan de reportages télé, mais voilà, le sujet m'intéressait, je les ai regardés. Et là, ils sont sur des thématiques plus précises. Alors, si on veut s'intéresser à des choses comme ça plus précises, il en fait un sur la biodynamie. Du coup, ça va plus pousser sur ce domaine-là. Voilà, si on cherche des infos, après, il y a plein d'autres films ou reportages qui existent. Mais Wine Calling, je trouve que pour aborder le vin naturel...
Moi, ce que je trouve bien dans ce film, c'est que ça montre surtout l'état d'esprit et on sort de ce film-là. Enfin, on avait fait, nous, cette projection de Wine Calling en partenariat avec notamment avec les 400 coups et puis d'autres viticulteurs, enfin, les 400 coups, le bar à vin naturel qu'il y a dans le centre. Ouais. Et il faut faire attention parce que des enfants nous écoutent quand même dans le studio. Bref, donc bref. Et on avait fait une projection un an auparavant d'un film qui s'appelait In Vino Veritas de Pascal Obadia, que moi, je trouvais être très intéressant. Mais par exemple, Jérémy, alors je parle à sa place, qui m'excuse, mais il me disait, moi, le film est bien, c'est plaisir, mais je n'ai pas appris grand-chose.
Juste pour expliquer, Jérémy Castana, patron des 400 coups.
Qui est également vignoble, enfin viticulteur, vigneron.
Oui, si.
Bref, et voilà, et Wine Calling, ce qu'il y a de bien, c'est que ça montre l'état d'esprit. Ce n'est pas un film qui va te dire, oui, alors si tu veux du vin naturel, il faut que tu prennes tel bois, tel truc, tu laisses autant de temps que ce soit tel cépage, tel truc. C'est un truc, c'est ouais, ben, nous, l'esprit avant tout, c'est ben, y en a un qui est dans la panade. Eh ben on va l'aider, même si c'est 5h du matin, c'est ce qu'on voit dans le film. Y en a un, il a besoin d'un tracteur, parce qu'il faut absolument qu'il récolte ou qu'il fasse je sais pas quoi aujourd'hui, et pas de bol, son tracteur il est en panne, eh ben on lui en prête un, et même si... Voilà, quand il y a un acheteur international qui vient dans la région, et ben on lui conseille aussi le copain qui fait du très bon vin, qui ne vient pas que pour nous. Enfin, c'est tout cet état d'esprit que je trouvais plutôt sympathique, moi.
Oui, ça fait un lien entre les démarches et puis en même temps le quotidien, la réalité de ces personnes et avec ensuite, bien sûr, leur produit.
C'est ça, et boire du vin naturel, ce n'est pas que boire un vin sans sulfite ou nature ou je ne sais pas quoi, c'est aussi boire un vin fait avec de la solidarité.
Démarches. Voilà. Tout à fait. C'est peut-être pas un hasard. Je me permets, c'est peut-être pas un hasard si vous avez fait une dégustation après, d'ailleurs.
Avant.
Pardon.
Non, parce qu'après, ça aurait fini trop tard.
Ça aurait été compliqué.
Il y
aurait
plein d'heures payées pour les personnes.
C'est-à-dire qu'il y a eu la diffusion du film et la dégustation.
Et on est le seul cinéma en France à avoir fait deux dégustations sur Wine Calling.
C'est-à-dire à deux reprises.
On avait fait une avant-première en mai avec le producteur qui était venu, le producteur du film. Et on a fait une projection la veille de l'ouverture du Salon des Vins du Coin, donc le vendredi, pour marquer le coup. Voilà. Et à chaque fois, ce ne sont pas les mêmes vignerons qui sont venus. Et ouais.
En tout cas, c'est une très très bonne idée. Merci beaucoup Maïlys d'être venue et de nous avoir parlé aussi bien du vin et du cinéma. Et voilà.
Merci Marie pour cette petite parenthèse viticole. Moi, quand on parle de vin au cinéma, je suis désolée, je pense au Tonton Flingueur en fait, à propos de cuisine et de. Et voilà, c'est pas vraiment la cuisine, mais voilà, cette scène, elle est absolument d'anthologie.
C'est une drôle de cuisine.
Et voilà, c'est une drôle de cuisine. Et je ne peux m'empêcher de penser à Lulu la Nantaise. Moi, je reprendrais bien, alors, parce qu'on a parlé tout à l'heure, on a quand même commencé avec la grande bouffe, on a parlé de cinéma asiatique, on avait parlé aliments comme accès au plaisir, le plaisir un peu transgressif. Le Festin de Babette, c'est un film que vous avez vu, c'est quand même centré sur la nourriture.
Un chef-d'œuvre.
Oui, j'ai vu longtemps.
Moi aussi, ouais. C'est un chef-d'œuvre, c'était un film culte pour toute la famille.
Ouais, tout à fait. Je sais qu'elle cuisine tout le long aussi du. Enfin, elle prépare la table et elle cuisine pratiquement tout le long du film.
Oui.
Elle fait que ça.
Hein. Oui.
Ouais, on voit. C'est... Ouais.
Mais c'est-à-dire qu'elle, c'est quand même une femme qui va séduire une population. On est un petit peu comme le chocolat, qui va séduire une population protestante.
Un village.
Un village entier par l'art culinaire.
Parce qu'elle suscite quand même.
Ouais, en même temps, les Danois sont pas difficiles à séduire par l'art culinaire. Hein.
D'ailleurs, tu vas pas te faire des copains en Scandinavie, mais bon, personne n'écoute, ils s'en foutent. Mais donc c'est pas très grave. Mais ouais, mais en fait, t'as raison. Ils sont beaucoup moins austères que les Norvégiens et à la limite même que les Suédois, mais ils sont un petit peu quand même austères. Pour les faire, c'est tiré d'un livre danois, hein, il me semble, au départ.
Oui.
Je pense que l'auteur a été prix Nobel de littérature, si je ne me trompe pas. Donc, moi, j'ai pas lu le livre. Hein,
non, mais... c'est Karen Blixen. Non, bah oui, c'est Karen Blixen.
Elle est
c'est tiré du roman de Karen. Ah. Bah, elle est multiprimée.
Elle est. Oui, enfin.
Non.
Non, ça s'appelle pas comme ça. Ils adorent la culture française aussi au Danemark. Hein. Le Danemark a eu beaucoup d'influence française. Hein. Pas que Napoléon a mis le prince sur le trône, etc. etc. Donc, je pense qu'ils ont été beaucoup...
Mais le Festin de Babette, j'ai retenu... C'est pareil, je l'ai vu il y a longtemps, mais c'est pareil, je retiens l'interprétation de Stéphane Audran. Quoi.
Mmh. Oui.
C'est
ça qui est la cuisinière.
Qui est la cuisinière, qui est celle qui enfin, elle a... C'est une merveilleuse actrice, elle est formidable, elle pourrait jouer un réverbère que ça serait formidable.
Est-ce qu'on y croit à ce qu'elle cuisine par rapport à ce que disait Romain tout à l'heure?
Complètement.
Oui, mais je l'ai vu il y a très longtemps et je l'ai revu il y a, je sais pas, 2-3 ans et je trouvais que ça avait mal vieilli.
Ah, peut-être.
Alors, je sais pas
c'est
pourquoi.
C'est un film qui est de 1987, c'est...
Oui, c'est ça, 1987. Et je sais
c'est les
pas,
costumes, c'est complètement démodé.
Non, une robe sympa. Mais non, je sais pas, c'est l'image, c'est peut-être le propos et... Je sais pas, et peut-être... Désuet, non,
il faut le revoir,
pas bien de dire ça. Faudrait le revoir, je sais pas. Ouais.
Il y a un autre film. Ah, pardon, Romain.
Non, mais moi, j'ai pas vu le Festin de Babette. Voilà. Ouais. Mais en film danois, il y a Festen. Mais ça part un peu en vrille, mais c'est autour de la bouffe
mais
aussi.
Mais finalement.
Enfin, autour d'un repas.
C'est là, et encore une fois,
ça se passe
sur
un repas. Enfin, c'est. Oui.
Enfin, c'est vrai que tout se passe à table quand même. Là, pour le coup, la cuisine n'est pas. Mais par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, la cuisine n'est pas. On parle pas de cuisine, mais encore une fois, on est autour du repas.
Prétexte quoi.
Ouais, mais...
Non, on part du principe où tout peut se passer autour d'un repas. Donc là, dans le film, on lave son linge sale en famille, c'est le cas de le dire, dans ce film-là. Mais tout se passe, les grandes scènes qui se passent autour d'un repas. Les Incorruptibles, avec Robert De Niro, c'est autour d'un repas. Aidez-moi, c'est la Saint-Barthélemy aussi pendant la Saint. Non, c'est ça.
Je suis incapable de t'aider. Je suis désolée. La Saint-Barthélemy.
On ne parle pas de l'histoire de France. Hein, on parle Al Capone se lève de table et puis il fracasse à coups de batte de baseball.
Un des
mafiosos qui est avec lui. Ça se passe autour d'un repas également. On peut faire tout un tas de choses autour de la table.
Et puis dans la mafia, il y a aussi Corleone qui se fait tuer alors qu'il choisit une orange.
Parce qu'il fait mauvais, il fait le mauvais choix, c'est
dessus.
Ça
Il se fait tirer dessus pendant qu'il choisit une orange. Il revient dans le quartier de son enfance. Exactement.
Mais le repas est un petit peu le... J'ai vu Le Parfum de la Dame en Noir récemment de Bruno Podalides. Et en fait, à chaque fois, Zabou Breitman lance des crêpes. Quoi. C'est-à-dire qu'il se retrouve toujours au petit déjeuner, etc. C'est le moment des crêpes. Mais parce qu'en fait, tout doit se passer comme c'est une enquête et il faut trouver le coupable. Voilà. Le moment où tout le monde se retrouve, en fait, c'est le repas. C'est là que ça se passe.
Oui, et puis probablement que, de même que tu disais tout à l'heure, Yann, il y a quelque chose en lien avec les sens. Et pourquoi pas, il y a quelque chose en lien donc, avec l'émotion. Quoi. Donc ça cristallise, je pense, des émotions qui... Moi, je pense que la nourriture, c'est tellement fort que ça peut provoquer... Des émotions fortes qui nous dépassent.
Voilà. Alors, écoute, je te remercie parce que tu me donnes tu me fournis une transition idéale pour le coup de gueule de Yann qui quand même arrive à s'énerver tous les mois autour d'une problématique liée à la cuisine. Donc va, Yann, aujourd'hui c'est la galette.
C'est la galette. On va démarrer la soirée, l'année en douceur tout de même. De bouche à oreille.
C'était quoi des
Le gras,
c'est la vie. Vas-y.
De bouche à oreille.
Le gras, c'est la vie.
Oh oui. Bon, c'était pas mon jingle annoncé, mais c'est pas grave. Alors, je vais démarrer quand même. Bonne année. C'est ainsi donc, avec ces deux mots à la suite, qui sont de circonstances, n'est-ce pas, très logiquement, que je tenais à inaugurer mes chroniques 2019, même si ça fait environ 40 minutes que nous sommes à l'antenne, en direct sur StudioZef, 91.1 FM à Blois ou sur internet studiozef.fr. Et oui, les amis, nous avons dit lors de notre dernière réunion que nous annoncerions le nom de notre radio préférée plusieurs fois lors de l'émission. Ça n'a pas été fait. Donc, je corrige.
Désolé. Bref. À la fois, si les gens nous écoutent, c'est qu'a priori, ils ont trouvé le bon canal.
Pas forcément. Ils sont, ils ont loué une voiture en arrivant à Blois. Ils ont allumé le poste de radio. Ils sont tombés sur nous par hasard. Et puis voilà. Donc, je reprends le fil de ma lecture. Bref, nous avons présenté nos vœux il y a 40 minutes. Ou pas, je réitère. Après tout, c'est ma chronique. Il fallait bien que je me garde un petit peu de ce bonheur égoïste pour moi-même. Chers auditeurs, donc, je vais pouvoir recommencer à énerver certains d'entre vous, nombreux je l'espère, en critiquant tout et pas n'importe quoi cette année encore. En 2018, je n'avais eu que 4 émissions pour l'ouvrir et en 2019, apprêtez-vous donc à 10 tentatives pour essayer de me la faire fermer. Je cherchais dernièrement un sujet propice à susciter une indignation digne de mon coup de gueule inaugural et ça faisait pas 5 minutes qu'on était en 2019 que déjà il y a un truc qui m'énervait. Je vais vous parler de la galette des rois, cette tradition ancienne qui consiste à désigner un roi ou une reine au hasard par le truchement tantôt d'un gâteau fourré à la frangipane, tantôt d'une couronne briochée recouverte de fruits confits et d'eau de fleurs d'oranger, ou même d'une galette de pâte à choux, spécialité comtoise, tout dépendant de la région où vous vous trouvez. Et oui, on compte beaucoup de variantes de la galette des rois dans notre beau pays, et vous allez voir que ça ne suffit pas toujours à rassasier tous les palais. Pour en revenir à notre sujet d'agacement, cela avait déjà commencé avant Noël, quand je les avais vus arriver aux étals de certains boulangers, trop pressés de faire des affaires de plus, comme s'ils n'avaient pas fait assez de thunes en vendant des bûches de fabrication industrielle pendant tout le mois de décembre. Et parlons même pas des supermarchés qui, dès Halloween terminé, ont foutu un petit peu partout aux entrées des magasins. Ne leur jetons pas tous les blâmes non plus, hein, les consommateurs n'en achèteraient pas que ça ne se vendrait plus, n'est-ce pas? Rappelons qu'il n'est plus obligatoire, contrairement au pain, de mentionner « fait maison » sur des viennoiseries. Tous les boulangers de France le savent. On peut aisément dire d'ailleurs qu'environ 70% de ceux-ci ne font que cuire ou simplement réchauffer les produits achetés sur les catalogues de grands groupes industriels. Ce gain de temps précieux pour les boulangers-pâtissiers, bien qu'à mon avis quelque peu déplorable, a aussi contribué à l'élargissement de l'offre. Eh oui, on a moins de temps pour fabriquer, donc ce gain de temps, on l'ouvre les catalogues et on choisit ce qu'on va mettre sur nos étals. Et on a donc droit à toute une gamme de galettes des rois, aux fourrages plus extravagants les uns que les autres. Depuis quelques années, donc, plutôt que le frère découvrir le merveilleux fruit de l'amandier à nos chers enfants, autrement qu'avec une crème hydratante pour les mains ou un shampoing pour cuir chevelu sensible, on préfère les préserver et du même coup leurs neurones en leur balançant ce qu'ils en connaissent déjà pour ne pas, semble-t-il, les perturber. Il faut leur faire plaisir, bref, encore une fois, les prendre pour des imbéciles. Ce n'est pas tant devant la prolifération de l'offre que vient mon indignation du jour, mais plus à la diminution de celle de la qualité qui en découle. Je préférerais que mon artisan boulanger fasse une très bonne galette lui-même de A à Z, plutôt que 3 ou 4 différentes venant d'une usine. Mais tant que les gens ne se posent pas de questions, on aura tort encore une fois de les blâmer trop fort après tout. Et vas-y donc de la galette au chocolat, aux poires ou aux pommes. Moi, j'ai même un oncle qui la préfère sèche, la galette, c'est-à-dire sans fourrage, la pâte feuilletée, sans rien dedans. Comme si comme manger une pâte brisée cuite sans rien, parce qu'on n'aime pas les pommes dans la tarte aux pommes. Vous voyez. Au moins traditionnellement, cette pratique existe depuis toujours dans certaines régions, on y ajoutait simplement un petit peu de confiture. Pour le chocolat, moi, je dis que vous pourriez quand même attendre la chandeleur pour en mettre dans vos crêpes. Et puis, c'est pas comme si vous en étiez pas gavé tout le mois de décembre non plus. Mais figurez-vous que je suis loin d'être le seul à m'indigner au manque d'attachement aux traditions comme celle-ci. Je vous parlais des différentes galettes de nos régions. Eh bien, la galette comtoise, justement, elle se perd. À un tel point que la Franche-Comté compte de plus en plus d'adeptes de la galette frangipane. La demande est telle qu'un pâtissier de Besançon, et ceci est une histoire vraie que j'ai vue dans le journal cette année, ce pâtissier à Besançon a été exaspéré à un tel point que ce dernier a eu décidé de garnir de manière, comment dire, très artisanale et bien peu orthodoxe, de fourrage crémeux et de fabrication très personnelle, les pâtisseries destinées à la clientèle. Je ne vous fais pas un dessin. Dénoncé par un jeune apprenti, il finit par avouer que son indignation l'avait poussé à se venger des clients peu regardant les traditions locales auxquelles il était apparemment très attaché lui-même. Alors rassurez-vous, je ne m'en inspirerai nullement. Et comme vous l'avez compris, je ne ferai pas de galette au chocolat cette année de toute façon. Bonne année. Put a spell on you. Because you're mine. Stop the things you do. What's up?
C'est sur ces quelques notes de I Put a Spell on You, issue de la BO de Soul Kitchen. Ça va, je l'ai bien prononcé.
Comment tu dis ?
Pas du tout, c'est pas du tout Soul Kitchen, c'est. Pardon, c'est un Jarmusch. Pardon, j'avais tellement envie de parler Soul Kitchen que je. Voilà.
C'est la scène où elle fume en dansant.
Ouais, j'aurais droit quand même à un bout de la BO de Soul Kitchen tout à l'heure ? Ouais, d'accord.
Il a dit oui, Jérémy.
Il a dit oui, super. Parce que moi, j'avais justement envie d'en parler de ce film. Je pense que tout le monde l'a vu autour de la table. Romain,
non, j'ai pas vu.
Tu l'as pas vu. Romain, Soul Kitchen, ça t'évoque quoi par rapport à la cuisine ?
C'est un film que j'aime pas spécialement.
Oh,
mais
mince.
Je l'ai vu. Après, Fatih Akin, pour moi, c'est un peu comme Naomi Kawase, quoi. Ils ont fait un bon film.
C'est d'accord. Et donc, il a fait De l'autre côté, c'est tout pour toi, Fatih Akin ?
Eden.
Ah, pardon.
Non, bref, pardon.
Ouais, donc bon, bah, tu nous as plombé, très bien.
Non, suivant. Non, on ne va pas s'arrêter là.
Non, mais c'est vrai que Soul Kitchen, c'est. En fait, on ne voit pas du tout de cuisine. Moi, ce que j'aime bien, c'est qu'il y a quand même. Alors, je regarde Yann en disant ça, parce que Yann a été chef cuistot. Le caractère. Les divas des chefs cuistots qui est exprimé très, très fort. Je ne sais pas si tu as l'extrait, Jérémy.
C'est merveilleux. Fantastique. Un vrai café d'artiste. Ça va marcher ton truc.
Dis donc, t'aurais pas envie de gérer mon resto ?
J'en sais tellement sur les restaurants que je sais que moi-même, je n'en aurai jamais. Steak haché Hawaï, boulette de viande, poisson frit, spaghetti à la crème, épinard à la crème, pommes de terre à la crème. Je ne cuisine pas ces horreurs.
T'avais pas dit que tu voulais du boulot ?
Une pute est une pute et le restera. Moi, je suis cuistot.
D'accord. Par là, tout droit.
C'est vrai que c'est une espèce de caricature du cuisinier.
Artiste.
Non, mais peut-être deux cons, quoi. C'est que j'ai pu connaître.
Oui. C'est pour ça que je me tourne vers toi. Je sais que tu as eu un petit peu une expérience.
Je me souviens qu'un cuisinier, ça peut être comme ça. Après, ce film, bon, je suis assez d'accord avec Romain. C'est vrai qu'elle donne à côté. Soul Kitchen, c'est moins bien, je trouve. Mais c'est là encore le prétexte de la cuisine, c'est vraiment. Je trouve que les personnages sont caricaturés, mais à fond, quoi. Mais tous. Il n'y en a pas un qui est sobre, en fait. Et,
c'est poussé jusqu'au bout.
Ouais, c'est poussé jusqu'au bout. Après, je trouve que ça fonctionne pas mal. On rigole pas mal aussi. Il y a une bande originale absolument délicieuse. Voilà.
Et puis l'acteur, c'est un de mes acteurs préférés, Birol Unuel. Oui. Il est très bien dans ce rôle-là.
Qui jouait dans Eden, d'ailleurs.
Oui, tout à fait. C'est l'acteur de Fatih Akin. Mmh. Où c'était
Soul Kitchen. De Soul Kitchen à Ratatouille, il n'y a qu'un pas. Non, Jérémy, ne fait pas des grands yeux. C'est pas grave, on n'a pas forcément le temps de passer l'extrait. Un petit extrait, alors. Ça va venir.
À Paris, la ville des plus grands restaurants et des meilleurs chefs au monde.
Paris, un saumon grillé pour la deux.
Toute ma vie, j'ai rêvé d'être l'un des leurs.
Vous vous dites sans doute que c'est un drôle de rêve pour un rat. Mais j'ai toujours pensé qu'en travaillant dur et avec un peu de chance, tôt ou tard, mon talent serait enfin reconnu.
Attrapez-le! Vous vous rendez compte de ce qui se passerait si quelqu'un apprenait qu'il y a un rat dans notre cuisine? Allez, Oust! Emmenez-le aux poubelles, commis! Ne me regarde pas comme ça! Ce n'est pas moi qui me suis permis des fantaisies avec les épices!
J'ai besoin de ce boulot.
Alors, Ratatouille, c'est un dessin animé. Moi, je dis toujours dessin animé. Peut-être il faut dire animation, le vrai terme, c'est ça. Je ne sais pas, un film d'animation.
C'est toujours du dessin qui est animé.
Ouais, voilà, je ne sais pas. Romain, c'est quoi?
Je ne suis pas du tout... Oui, un film d'animation. C'est ce que je mets dans les programmes, un film
d'accord,
d'animation.
D'accord, très bien. Bon, on va dire un film d'animation. Et en fait, c'est sur l'histoire d'un rat. Un petit rat qui se révèle un chef extraordinaire et là pour le coup, je sais pas ce que vous en pensez, moi je l'ai découvert il y a récemment. Romain, toi, ça fait je sais pas si vous l'avez programmé au Lobby, si c'est le genre de film qui passe au Lobby.
Je crois que j'étais encore étudiant à cette époque-là.
D'accord. Ratatouille, ça date de, je vais vous dire ça, 2007. Et tu l'as vu?
Je crois que je l'ai vu. Mais je crois que je l'ai vu avec ma petite cousine. Je ne l'ai pas vu en mode analyse.
En regard de cinéphile. Je sais qu'Yann, toi, c'est une de tes références, Ratatouille, quand on a parlé film de cuisine.
Oui, référence récente parce que je l'ai vu avec mes enfants. Mais j'ai trouvé ça vachement bien, Ratatouille. Mais vraiment vachement bien. Il n'y a aucune caricature dans la cuisine. Tout est vrai. On peut vraiment s'y retrouver. Ils cuisinent des choses qui existent, vraiment. Mmh. Et moi, il y a une scène qui m'a vraiment... particulièrement frappé, c'est à la fin, le sans rien révéler du film pour ceux qui ne l'auraient pas vu, bien évidemment. Il y a le critique dans le film qui est particulièrement virulent, méchant.
Ah, c'est le méchant. Il faut toujours un méchant dans les films de Disney.
Et Rémi, donc le rat, le petit héros de Ratatouille, lui cuisine une ratatouille. Et c'est le seul moment où on voit de la ratatouille. Et il retombe totalement en enfance.
Sur un plat tout simple, finalement.
Complètement. Et donc, le critique gastronomique le mange et il retombe totalement en enfance. On le revoit, c'est un petit garçon, il est dans sa Provence natale. Et puis, il est devant la ratatouille de sa mère ou de sa grand-mère. Voilà, il n'y a qu'au cinéma qu'on peut vraiment faire transmettre ça, je pense.
Et ce que je trouve intéressant quand même, c'est un film américain, forcément, et les Américains qui ne peuvent pas trop nous piffrer disent quand même que c'est à Paris qu'on fait la meilleure cuisine.
Non, nous aiment beaucoup. Les Américains aiment beaucoup les étrangers en général.
Certains, nous aiment plus que d'autres. si on allait visiter les souvenirs d'une certaine Cécile Argondico, Véro.
Oui, Cécile, qui est donc l'ancienne patronne de l'Herbe Rouge à Valère. Et c'est très très court, mais elle évoque un petit souvenir de Vendée. Se souvenir des bonnes choses.
Donc quand j'étais enfant, avec mes grands-parents, on allait chez des fermiers, des amis à eux qui avaient une ferme avec des vaches. Et on s'arrangeait pour aller voir la traite, ce qui nous amusait, mes cousins, ma sœur et moi. Et ma grand-mère amenait toujours du lait cru, entier, encore tiède, et il nous faisait des caillebottes. Donc une spécialité vendéenne qui consiste à faire cailler ce lait avec de la pressure. Et donc la pressure, c'est extrait de l'estomac de veau. C'est des enzymes qui permettent de faire cailler le lait. Pour faire des caillebottes, il faut que le lait soit à température du pis de la vache. Donc un peu plus que température ambiante. On rajoute de la pressure et on attend que ça raffermisse, en fait. Ça devient comme une sorte d'entremets. Une fois que c'est pris, ma grand-mère le coupait. Enfin, d'ailleurs, ma grand-mère, tout le monde, hein, c'est la recette vraiment traditionnelle. On coupe en gros cubes ce caillé qu'on remet sur un diffuseur pour chauffer sans flamme directe, ce qui fait ressortir le petit lait. Et ce petit lait, on le récupère, on rajoute du sucre, éventuellement de la vanille, éventuellement d'extrait de café. Mais avec ma grand-mère, c'était vanille. Et ce petit lait sucré, on le remet sur les caillebottes qu'on laisse au frais et qu'on déguste très très frais l'été. C'est vrai que le goût est quand même un peu particulier. La texture, surtout la texture, c'est pas le goût, mais la texture est un peu particulière. Et j'étais, de mes cousins, la seule à aimer ça. Donc j'en avais plein. Je pouvais en avoir plus, c'était chouette.
Alors à chaque fois que quelqu'un me donne une recette comme ça que je trouve complètement hallucinante, je vais regarder d'où ça vient, ce que c'est, etc. Et puis parce que des fois on tombe sur des recettes où chacun dit ah bah oui c'est la spécialité de cette région, de là où je viens, etc. Et là donc effectivement mais la recette originale apparemment on met ça comme en fait ça se coupe en cubes effectivement dans du café froid et ça se mange comme une île flottante.
Oh bah
c'est,
oui.
C'est voilà en dessert.
Ça voilà, fait rêver. Donc, en effet.
Après ton petit repas indien, on pourrait faire ça en dessert.
On fera ça en dessert, un petit morceau de caillebotte dans un café froid.
Ça a un goût de fromage un petit peu.
Je sais pas, j'ai pas goûté.
Elle t'a pas fait.
Non, elle l'a pas. Elle en avait pas fait. Là. Elle en avait pas sur elle là.
Merci Véro pour ce petit souvenir et puis ça fait plaisir d'entendre Cécile. Oui. Ça fait longtemps qu'on l'a pas entendu. Romain, on a abordé quelques films. On t'a un peu drivé parce que on avait décidé de quel film on allait parler. Là, spontanément, tu nous parlerais de quoi ? Quel film on n'a pas abordé ? Alors, j'imagine qu'il y en a une centaine, enfin non, voilà, mais à quoi...
Moi, il y a un film que j'avais beaucoup aimé, un documentaire qu'on avait passé au Lobis il y a 2 ans, c'était sur le restaurant Noma. Et ça s'appelait Noma au Japon et ça racontait, alors je me souviens plus comment il s'appelle ce cuisinier star là.
Quelque chose, je me souviens plus.
Bah, en gros, ça racontait de eux qui sont superstars au Danemark et en Europe. Et il y a un hôtel au Japon, leur avait laissé 1 ou 2 étages pour faire un restaurant.
C'est ça, c'est des cuisiniers scandinaves qui sont allés au Japon,
donc,
hein, c'est bien ça.
Du coup, c'est vraiment un film. En plus, nous, on avait passé ce film dans le cadre du mois de l'Europe. Et entre ça, donc il y a des gens qui disent « Ah, mais ça parle du Japon ». Non, non, ça parle justement de l'ouverture de l'Europe. Et c'est un film où on voit ces sortes de camionneurs tatoués danois qui font 3 têtes de plus que les gens à Tokyo et qui, du coup, sont très, très délicats et font découvrir des saveurs. Et voilà. Et il dit que le mec de Noma dit on est obligé de venir longtemps avant nous imprégner de cette culture-là. Un peu comme par exemple on peut avoir chez Assa Abloy, pour arriver à faire quelque chose qui nous appartienne, mais là-bas. Et de ne pas juste refaire les mêmes plats qu'au Danemark, qui ont du sens au Danemark. Ah
oui. Les adapter, les adapter
coup,
à la
voit,
culture
moment,
asiatique.
Ils se baladent dans une sorte de forêt, et puis là, il y a un vieux monsieur qui leur dit « Ah, mais ça machin, ça c'est une herbe, vous ne connaissez pas ?» Et puis ils la goûtent comme ça. « Ah ouais, mais si on en mange trop, c'est poison. Ah d'accord, ok, donc je n'en mange qu'une. » Enfin, c'est vraiment un... Voilà. Bon.
Le mélange du coup d'une cuisine occidentale avec une cuisine asiatique.
Alors après, c'est un peu bobo aussi, mais bon, c'est un documentaire. Non, mais c'est... voilà. C'est très premier degré en mode un documentaire qui parle de bouffe, mais c'est un bon documentaire.
Et en fiction, avant de conclure notre émission, est-ce que vous avez des films là dont on n'a pas parlé, ou vraiment soit juste une scène mythique, soit...
La scène de Meg Ryan, Harry, quand Harry rencontre Sally.
C'est vrai qu'ils empêchent des choses au restaurant.
Bah ouais, dans le Cats à New York, c'est un délicatessen le plus connu sans doute à New York. Et la scène est mythique. Évidemment, conclue à la fin par la cliente qui demande la même chose qu'elle. Voilà. Il n'y a pas de bouffe du tout dedans.
Non, mais non, c'est vrai. Voilà,
et je ne sais pas pourquoi je pense à ça, mais je pense au cinéma Oh, je ne vais pas arriver à le dire. Abdelatif Kechiche.
Abdelatif Kechiche, oui, bien sûr.
En fait, et c'est marrant, alors, la nourriture est extrêmement présente, mais il a une façon de filmer les gens de très près en train de manger. Et alors moi, ça me dérange.
Oui. Ben, c'est-à-dire que c'est quasiment dégoûtant.
C'est
à l'opposé pour moi de la vision asiatique de la nourriture. Je ne sais pas si...
Vous pouvez voir tous ces films, c'est systématique, la granulée, le mulet, en gros plan. Ouais. Dans la vie d'Adèle,
cette
scène où elle mange ses spaghettis.
Enfin, c'est agaçant.
Ah, non, oui. Mais au-delà, il y a aussi une vision sociologique qui, moi, me pose problème. C'est-à-dire que les riches savent manger des huîtres délicatement, les pauvres mangent des pâtes en se baffrant.
Oh, j'avais pas vu ça comme ça.
Oh, dans la grande bouffe, ils bouffent des huîtres, ils font un concours de rapidité, il y a celui qui mangera le plus d'huîtres.
Oui, mais justement, ce que je veux dire, c'est qu'Abdelatif Kechiche, moi, je trouve, fait une scission par la façon de manger. Mais c'est peut-être uniquement ma vision.
Ah, tu penses ? Ok.
J'ai l'impression.
Bah, c'est vrai que les pauvres mangent comme ça.
Mangent mal. Mangent salement, ils se mettent de la sauce tomate partout.
Ouais, je sais pas. Adèle, elle bouffe comme mon ado, ses spaghettis, il n'y a rien.
Je suis désolée.
C'est une plaisanterie. Oui, parce que. N'envoyez pas de courrier des auditeurs.
Parce que malheureusement, nous allons devoir conclure. Donc, je suis un petit peu embêtée qu'on conclue sur cette phrase.
Non, on peut terminer sur L'aile ou la cuisse, qui est un film très.
Ah oui!
Parfaitement, ouais. Enfin, moi, c'est pareil, c'est un souvenir d'enfant que j'ai de. Après, je sais pas si c'est plus optimiste que mince. Ouais,
c'est quand même sur la société consumériste. Ça dénonce bien le truc. Enfin, voilà. Et puis,
très réaliste.
Magnifique. Non, mais c'est vrai.
Bien sûr.
Donc, chers auditeurs, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Revoir L'aile ou la cuisse. Oui. On vous mettra.
Et Ratatouille.
Voilà, c'est ça. Pas Soul Kitchen, c'est pas le meilleur Fatih Akin. Ce serait vraiment dommage.
Ratatouille donne beaucoup plus envie de manger que la grande bouffe. Ah
bah. Oui, par contre, si vous avez besoin de faire un régime, la grande bouffe, je pense que c'est bon. C'est tout vu. On doit conclure, on est super en retard. Merci Romain d'être venu jusqu'à nous.
Ben, merci à vous de l'invitation.
Merci Maïlys.
Merci.
Et puis merci mes chers camarades attablés.
Merci à toi.
Plaisir.
On se donne rendez-vous le mois prochain. Et puis voilà, le thème sera surprise. On vous l'annoncera à la dernière minute.
Ah bon, tu le dis pas là?
Parce qu'elle s'en souvient pas.
Dommage.
Elle a pas pris ses notes.
Mes cartouches. Je trouve ça scandaleux de griller votre animatrice préférée. Merci à tous, bonne soirée, bon appétit.
Oh, j'ai fait un drôle de rêve cette nuit. On était tous là comme ça autour d'une table. Moi j'avais un gros poisson dans la main. Et je donnais des couches sur la tête de maman avec, mais c'est avec le poisson.
Ouais. Du poisson?
Ouais.
Mais c'est très bon ça. C'est de l'argent? Mais tu vas gagner de l'argent.
Ah bon?
Ah, tout de même. Tiens, voilà.
Je peux commencer à ouvrir? Oh,
bien sûr, allez-y, c'est fait pour. Attendez. Ouvrez celui-là d'abord, le petit, là. Ouais, ça, c'est mon cadeau.
L'autre, c'est Henri Arlette.
Mais il s'ouvre après. Enfin, vous comprendrez quand vous aurez ouvert les deux.